Juste avant de poursuivre sur notre plan de match de cette commission Fontaine-Nadeau, ben, je vais leur demander de réagir à ce qu'ils viennent d'entendre. Alors, on a Isabelle qui est là et Marc. Bonjour à vous deux.
Bon matin.
Bon matin.
Alors, tiens, on va commencer avec Isabelle. Tu en penses quoi de toute cette histoire autour d'Annie Godbout?
Ben, écoute, moi, je ne sais pas pourquoi elle a réagi à ça ce matin. Là, je pense qu'il est tout à fait plausible qu'un commentateur puisse dire que cette campagne électorale-là puisse être un positionnement pour elle en vue d'une éventuelle campagne à la mairie. Je pense que cette rumeur qui peut-être circule sur le terrain peut venir du fait qu'Annie Godbout, elle n'a jamais caché ses ambitions. Avant la précédente campagne à la mairie, elle a longtemps laissé circuler son nom comme une candidate potentielle. Elle a décidé de ne pas se présenter contre Bernard Sévigny. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'y a pas réfléchi sérieusement à un autre moment. Maintenant, mon opinion à moi, c'est que je ne pense pas que stratégiquement, c'était nécessairement une bonne idée de se présenter maintenant aux élections provinciales en vue d'une campagne à la mairie. Je pense qu'il y a un risque quand même pour Annie Godbout, c'est que tu sais, une défaite, peu importe le palier, le gouvernement, ça marque un personnage. Donc, c'était peut-être probablement pas son intention. Je pense qu'elle est sincère dans son intention de devenir députée. Là. Ça, c'est mon avis personnel à moi. Mm-hmm. Elle vous l'a dit tantôt. Mais en même temps, on peut pas se défaire de cette idée qu'elle a déjà réfléchi à la possibilité de se présenter à la mairie, puis que cette ambition-là ne va probablement pas s'éteindre après une défaite le 1er octobre, si la défaite s'avère.
Marc?
Ben moi, je suis un peu en désaccord avec Isabelle. Je pense qu'elle a bien fait de réagir parce que, effectivement, c'est une supposition, c'est un ragot, là, c'est une rumeur. On pourrait passer nos journées à commenter les rumeurs politiques.
On est dans le potin.
On aurait certainement beaucoup de plaisir, ça serait agréable, mais quand on s'en tient au fait, bon, elle a eu des ambitions, est-ce qu'elle va vouloir y revenir? Ça, écoute, il y a plusieurs si qui nous amèneraient probablement bien loin si on cheminait de ce côté-là, mais je pense que elle a réagi parce que pour elle, sa priorité, tu sais, quand tu te lances en campagne électorale, tu y vas 100%. Tu dis, moi, je veux devenir député. Tu ne te présentes pas candidat, en tout cas, pas au niveau d'une candidature sérieuse comme la sienne pour un parti au pouvoir comme le PLQ. Tu t'en vas pas là en disant, ouais, ben là, tu sais, moi, je vais faire ça, puis je vais placer des pions à telle place. Non, non, tu y vas pour devenir député parce que c'est un processus qui est sérieux. Ça nécessite un engagement à 200%. Alors, je pense qu'elle a réagi parce que, à un moment donné, là, tu te dis, écoute, non, ça n'a pas de bon sens, je veux y aller pour être député. Mm-hmm. Bon, est-ce que sa campagne va nécessairement bien? Peut-être pas autant dans les sondages qu'elle le souhaiterait.
Ben, tu sais, communication 101, elle a eu une mauvaise journée la semaine dernière avec un sondage assez difficile.
Ouais.
Cette petite histoire qui serait restée une petite histoire de chronique hier, là, elle l'a fait vivre, là. Tu sais, on en parle pour une deuxième journée ensemble aujourd'hui. Donc, tu sais, elle alimente elle-même cette histoire, là. Moi, je pense qu'elle aurait dû continuer sa campagne sur le terrain puis passer outre les rumeurs rapportées.
Ben, parlez-en bien, parlez-en mal. C'est ça, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en.
C'est comme ça qu'elle l'a vu. Mais Isabelle, t'es pas d'accord. Tu dis, ah non, on aurait dû passer à d'autres choses.
Moi, je pense qu'elle aurait dû passer à autre chose.
Ouais. OK. Prévision de comté ce matin, on en parle parce qu'il y a quand même un jeu important qui se joue entre une majorité et une minorité en ce moment. La CAQ peut toujours l'emporter, peut toujours perdre également. Ça peut être le PLQ, même à la limite, on ne sait jamais, des revirements, ça existe. Le PQ pourrait se ramasser au pouvoir. Mais on regarde ça en ce moment et on se dit, peut-être que la majorité va jouer en Estrie.
Absolument, c'est quand même une bonne nouvelle. Là, l'Estrie n'est pas souvent à l'avant-plan dans les campagnes électorales comme ça. On a plutôt l'habitude d'être dans le garde-robe de la politique québécoise, d'avoir l'impression d'être un peu en marge. Donc là, pour une fois, on pourrait faire la différence entre un gouvernement minoritaire ou majoritaire pour la CAQ, notamment. Après la sortie, bon, Main Street fait des sondages régulièrement. Léger a sorti un sondage important en début de semaine qui mettait... mettait la course très, très serrée entre les libéraux et la CAQ. Et là, Québec 125 a fait ses projections de comté que vous avez peut-être vues. Et pour 5 des 6 circonscriptions en Estrie, le résultat est très, très serré. Donc, Québec 125 qualifie ses circonscriptions de pivot. Donc, Brome-Missisquoi irait à la CAQ sans après presque une certitude, mais pour les 5 autres circonscriptions, c'est très incertain. On hésite entre la CAQ et le PLQ, et ça fait en sorte qu'on pourrait justement être le terrain qui permettrait à la CAQ d'entrer en, en terrain majoritaire, là, c'est intéressant. Puis c'est une opportunité pour l'Estrie parce que c'est le moment là, de faire des demandes, d'avoir des revendications, peut-être pour nos élus, puis nos leaders au niveau municipal, d'être plus exigeants à l'égard des partis politiques et des chefs là, pour avoir des engagements plus concrets. On regarde ce matin l'engagement par rapport au train Sherbrooke-Montréal, puis on constate que François Rebello a probablement compris cette dynamique-là, l'expérience politique qu'il a fait en sorte qu'il a probablement compris ça. Mais là, c'est l'occasion pour l'Estrie de se positionner encore plus fermement sur la scène provinciale et d'obtenir des engagements concrets pour nous. Là.
Et au niveau des organisations aussi, ça va être très important. On va être un champ de bataille de premier ordre. Là, parce qu'à partir du moment où tu dis les cantons de l'Est sont pas un sideshow et on devient un focus.
Alors, tu le sens par la présence des chefs, hein? François Legault qui est revenu souvent, Philippe Couillard qui est à passage.
Et l'organisation, puis Jean-Marc Léger avait un tweet fort intéressant là-dessus il y a quelques jours, il parlait de l'importance de l'organisation. Et c'est là que ça va se jouer. Parce que ça va jouer au corps à corps. Ça va jouer au corps à corps sur le terrain. Là. Mm-hmm. Ça va être d'aller convaincre les gens, ça va être l'influence des débats, ça va être quelque chose d'assez intéressant à observer. Parce que quand tu regardes, bon, Sherbrooke, on le met probable PLQ. Mais dans les autres comtés, là, effectivement, là, c'est vraiment du...
Et même, il y a une course à trois par moment. Là. Même le PQ n'est pas si loin que ça dans certains comtés. Tu dis, advenant un bon débat de Jean-François Lisée.
Ouais. Ben, tu regardes dans Sherbrooke, regarde simplement dans Sherbrooke, les deux machines, c'est celle des libéraux et celle du PQ.
Parce que la CAQ étant trop nouvelle, pas assez rodée,
disons
qu'on parle de machines.
Ben,
c'est ça.
Oui. C'est ça, tu sais, dans le fond, on dit souvent, là, le langage des organisateurs politiques, c'est que la combinaison organisation solide, candidat fort, peut avoir une influence d'à peu près 5 % sur le résultat final dans une circonscription. Mais dans des circonscriptions comme en Estrie en ce moment, où c'est très serré, là, oups, avoir une organisation très solide avec de l'expérience, avoir un candidat qui mène une bonne campagne, là, un candidat avec des idées solides, puis une bonne capacité de se défendre, qui est bon sur le terrain. Là, on peut aller chercher le 5 % supplémentaire et dans bien des circonscriptions, on a parlé de Sherbrooke, ça pourrait être le cas dans Saint-François aussi,
absolument.
Puis dans Richmond aussi. Ça pourrait faire la différence entre une victoire ou une défaite pour les partis. Puis ça peut faire en sorte que le PLQ ou le PQ, parce qu'il y a une longue histoire sur le terrain, puisse faire une différence puis réussir à l'emporter à des endroits un peu inattendus. Le vote peut aussi se diviser, ça pourrait être le cas dans Sherbrooke. Là. Si Guillaume Rousseau arrive à prendre une partie du vote de Québec solidaire et que Bruno Vachon et Luc Fortin se séparaient le vote plus fédéraliste ou plus de centre-droit, ça pourrait faire en sorte que Guillaume Rousseau se glisse entre les deux. Là. Fait que c'est toutes des courses intéressantes.
Tout est possible.
Qui nous donnent un grand levier politique.
Oui, puis quand on regarde les projections de Québec 125, à l'heure actuelle, ils donnent 62 sièges à la CAQ de François Legault. Donc, on est à un siège de la majorité. Et alors là, tu t'imagines que ça va se jouer, là, ça va être une question de un comté ou deux comtés. Tu regardes le Harford. Actuellement, bon, on le met du côté de la CAQ, mais avec le pourcentage important de la population anglophone qui, traditionnellement, est beaucoup plus libérale.
Oui, oui.
Donc, ça peut jouer en faveur du candidat Guy Madard. Alors, tu vois, il y a certains jeux.
Chose, là.
Ça va jouer vraiment au corps à corps. Là. Ça va être intéressant.
Il y aura le sondage, le débat ce soir qui pourrait...
Oui, mais ajouter à ça le cadre financier dévoilé par le PQ aujourd'hui, j'ai trouvé ça un peu particulier. Isabelle, tu trouves pas ça spécial la journée même du débat?
Bien, ça va nous donner peu de temps pour y jeter un coup d'œil, là. T'as raison. Et peut-être qu'on aurait pu l'avoir dans les derniers jours. En même temps, tu sais, là, ça se bouscule. On a eu le cadre financier de la CAQ en fin de semaine, celui du PLQ hier. Moi, ce que... Puis, tu sais, faut faire un petit point sur le contexte. Là. C'est la première élection où la vérificatrice générale a publié au mois d'août une appréciation de l'état des finances publiques et des prévisions faites par le ministère des Finances, donc par Carlos Letao lui-même, en vue de la campagne électorale. Et l'objectif de cette nouvelle façon de faire, c'est d'éviter que les partis puissent, une fois arrivés au gouvernement, dire « Ah, ben on a trouvé un trou qu'on n'avait pas vu, puis les projections étaient trop fortes ou pas assez fortes. » Donc, elle a émis une opinion, elle a dit « Le ministère des Finances a des prévisions tout à fait plausibles de surplus budgétaire. » Là, on parle de 2,3 milliards pour l'an dernier, puis 950 millions pour les trois prochaines années, avec une prévision de croissance économique. Et là, le hic, c'est que le cadre financier du PLQ, comme le cadre financier de la CAQ, s'appuie sur des projections finalement plus optimistes que celles qui ont été approuvées par la vérificatrice générale. Donc, dans le fond,
il y a plus d'argent qui va rentrer.
Cette tentative de lutter contre le cynisme ouais. est un peu contrecarrée par les partis qui disent on va faire plus de défense parce que nous, on pense que les prévisions vont être meilleures que celles du ministère des Finances.
Particulier. Merci beaucoup on à vous deux ce matin.
Ça va être à suivre.
Alors, bon débat ce soir.
Bon débat.
Avec du popcorn.
Oui, au plaisir de commenter ça demain matin. À demain. Marc et Isabelle, merci beaucoup.